nous sommes repartis matin. Françoise traitera essentiellement du temps communiste et ségétiste. Moi, je traiterai de façon plus générale du socialisme et du syndicalisme non communiste, démocratique, alsacien dans le métro depuis ses origines. Et je vais être obligé de simplifier un petit peu parce qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire que je vais essayer de traiter des différentes générations qui sont représentées dans ce dictionnaire de façon d'ailleurs plus ou moins irrégulière. D'abord parce que le démarrage a été un petit peu lent ici, j'ai quelques responsabilités aussi dans les lacunes, et aussi parce que, évidemment, la spécificité de notre région de 1871 à 1918 a compliqué un petit peu les choses. Au départ, il avait été prévu que cette période ne serait pas traité pour l'Alsace et la Moselle dans le métro. Donc c'est des différences qui est frappant encore aujourd'hui, c'est l'empilement des générations. Des générations qui sont des générations de militants, des générations de dirigeants, qui sont très différentes les unes des autres. Le socialisme en Alsace a commencé très tôt à se manifester dès la première moitié du XIXe siècle. Je vous rappelle que le terme même de socialisme apparaît vers 1832, si je me trompe. Mais même avant cette époque, il y a en Alsace toute une série d'intellectuels qui sont les adeptes des grandes doctrines que l'on appelait autrefois socialiste utopique. Il y avait, par exemple, en particulier dans le Haut-Rhin, des Saint-Simoniens autour du docteur Paul Curie, je crois que c'est le père ou le grand-père, je ne sais plus exactement, du physicien, qui a œuvré un certain temps à Mulhouse. Plus populaire, enfin, non plus exactement, plus, avec plus de succès, les descendants de Fourier, les artisans de Fourier, ceux qu'on appelle les financiériens, et on remarque qu'il s'agit le plus souvent aussi de médecins. Le docteur Pierre-Paul Denguer, de la région de Colmar, le docteur Charles Schützenberg, frère du maire de Strasbourg, Charles Hitchcock, etc. Mais à ce moment-là, le mouvement socialiste en Alsace, c'est un mouvement de petites sectes, si vous voulez, qui n'ont aucune influence sur les milieux populaires. Il y a bien des mouvements, ce qu'on peut appeler des mouvements ouvriers importants. Par exemple, la fameuse fête des boulangers de Bocquefèche de Mulhouse en 1847 contre la Michel, mais les insurgés du Bocquefèche ignorent absolument tout, évidemment, de ces utopies savantes. Si on regarde la révolution de 1848, aux élections, il faut attendre les deuxièmes élections au suffrage universel, pour que ce que l'on peut appeler la démocratie socialiste, les démocrates socialistes, se manifestent véritablement. Mais ils se manifestent avec éclat. Et on le sait rarement, c'est qu'aux élections à l'Assemblée législative de 1849, ainsi qu'aux élections complémentaires de 1850, les deux départements alsaciens figurent parmi les plus rouges, les plus à gauche, de toute la France. Les listes démocrates socialistes obtiennent 8 sièges sur 10 dans le Haut-Rhin, ça va faire rêver certains ici, 7 sur 12 dans le Bas-Rhin. En fait, il faut bien le dire, ce vote fédère trois courants, le radicalisme républicain, le socialisme proprement dit, et aussi, et beaucoup, Prédival ne me démentira pas, la tendance des paysans protestants, des campagnards protestants, à voter systématiquement contre ceux qui sont contre le Parti catholique, conservateur dominant. Les grandes figures 48 ans alsaciennes sont peu représentées à ce jour dans le métro. Je vais m'employer à combler cette lacune en traitant par exemple pour le barin d'Hélicus ou de Charles Wilcoff, ou bien surtout d'un instituteur de Mulhouse devenu grand journaliste en France, puis après le coup d'État de 51 en Suisse, Jean-Joseph Schmitt, dont on ignore donc la grande majorité des Alsaciens ignore l'importance. Suit une longue éclipse, le coup d'État du 2 décembre 51, l'instauration d'un régime bonapartiste autoritaire, met fin pour longtemps à l'expression publique des idées socialistes. À la fin du Second Empire, un Mulhousien, Eugène Weiss, est un membre actif de l'Association internationale du travail, des travailleurs, c'est-à-dire de la première internationale, mais son influence réelle semble très limitée. Il ne semble avoir eu aucune influence, par exemple, sur le grand mouvement de grève de juillet 70, les semaines qui précèdent l'entrée en guerre, à Mulhouse et dans les valeurs du siècle du Haut-Rhin, où l'on perçoit plutôt l'influence du bonapartisme social qui veut gêner les industriels protestants libéraux, c'est-à-dire en fait orientalistes à l'époque. Si d'assez nombreux Alsaciens de Paris ont participé à la Commune, ils figurent dans la troisième partie du dictionnaire du métro. Par exemple, Théodore Kessler, je l'ai trouvé par hasard, ajusteur mécanicien originaire de Thal, qui fut condamné en 1872 à la déportation de Nouvelle-Calédonie. La social-démocratie allemande, que les ouvriers venus d'outre-Rhin cherchèrent à implanter, ne connut aucun succès avant 1890. C'est l'effet à la fois de la puissance du mouvement de la protestation contre l'annexion, de la politique répressive mais à la fois en vertu de la législation d'empire antisocialiste et du paragraphe de la dictature d'Alsace-Lorraine qui restreint les libertés de la presse, de réunion et d'association, et aussi, et cela a des conséquences plus lointaines, du fait durable qu'une grande partie des ouvriers catholiques sont détournés du socialisme par un clergé très influencé par le catholicisme social né en plus réel. Mais j'en arrive au véritable sujet, c'est-à-dire aux générations qui ont réimplanté le socialisme en Alsace. D'abord, la génération du Reichsland. À partir de 1890, le Parti social-démocrate réussit à s'implanter dans la région, à remporter des succès électoraux, en bénéficiant au départ d'ailleurs des voix protestataires et libérales. Les libéraux, c'est-à-dire en fait la bourgeoisie protestante, préfèrent voter rouge que noir. Noir, c'est-à-dire parti catholique. Ainsi, Charles Michel est élu député de Mulhouse au Reichstag en 1890, de même en 1893, à Mulhouse, et le grand leader social-démocrate allemand, Bethel, à Strasbourg. Des Allemands jouent un grand rôle dans l'implantation du parti, notamment Goehe à Strasbourg et Hemmel à Mulhouse. Il n'en demeure pas moins que de plus en plus d'autochtones firent leur apprentissage politique dans ce cadre. Le modèle de la social-démocratie allemande, grâce à eux, a influencé durablement les fédérations du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, du Parti Socialiste et SFIO durant l'entre-deux-guerres, et même après-guerre, après la libération, jusqu'aux années 60. On sait que le mouvement ouvrier allemand avait réussi à constituer une véritable contre-société non seulement le parti et les syndicats libres, comme on disait à Massachusetts, avaient des liens étroits, partis politiques, mouvements syndicaux, ce qui ignorait complètement la tradition syndicaliste française, notamment la CGT, mais autour d'eux, s'était constitué tout un réseau de coopératives de consommation, de caisses d'assurance maladie, d'offices de placement, d'associations de toutes sortes, pour les jeunes, les femmes, le sport, la musique, le théâtre, l'éducation populaire, le secourisme, la libre pensée, les amis de la nature, etc., etc. Le SPD, lors des élections du Reichstag en 1912, et le second parti d'Alsace, avec plus du tiers des suffrages exprimés, et les quatre sièges des grandes villes, Strasbourg-Ville, Belay, Strasbourg-Campagne, Fuchs, ce sont des Allemands, Colmar, Saint-Ferrand, Mulhouse, elle est encore un Allemand. Quelques exemples dont les biographies figurent dans les troncs. Ce sont les principaux leaders indigènes qui font leur éducation dans la social-démocratie et le syndicalisme allemand, sont pour la plupart victimes de la répression militaire allemande pendant la guerre de 14-18, se rallient avec enthousiasme au socialisme français et à la République française dès novembre 18 et adoptent immédiatement son idéologie républicaine, jacobine et laïque. Je cite quelques noms très rapidement. Jean Martin, c'est le plus vieux, journaliste social-démocrate à la New York Volkszeitung, puis au Républicain du Haut-Rhin après novembre 18, jusqu'à sa mort en 1922, fondateur à Mulhouse d'une dynastie, puisque son fils Pierre fut rédacteur en chef du Républicain du Haut-Rhin après 1945. Jacques Perrot, né en 1869, grand lecteur en allemand et en français, ouvrier du livre, donc appartenant à une aristocratie ouvrière qui est pillage, à la différence de la grande partie de la classe ouvrière alsacienne qui, après 70, ne sait plus que l'alsacien est allemand, puisqu'on a interdit l'enseignement du français dans les écoles primaires. Président de la social-démocratie d'Alsace-Lorraine, puis après 1918 de la Fédération SFIU du Bas-Rhin, député au Landtag en 1911, au Reichstag en 1912, maire de Strasbourg en 1918, puis élu au suffrage universel en 1919, député du Bas-Rhin de 1924 à 1932. Auguste Vittier, né en 1873, tailleur de Mulhouse, élève de l'école des cadres de la social-démocratie à Berlin, secrétaire permanent du cartel local des syndicats libres, puis de l'union locale CGT, adjoint maire en 19, maire de 1925 à 1940, expulsé en 40, de nouveau maire de 1945 à sa mort en 1947. Eugénie, qui est dans le précédent livre, né en 1978, charpentier à Strasbourg, président du syndicat des charpentiers, secrétaire général des syndicats libres d'Alsace-Lorraine, député au Landtag, puis après 18, secrétaire général de l'Union régionale Alsace-Lorraine, qui n'a pas duré, puis l'Union départementale du Bas-Rhin, CGT du Bas-Rhin, jusqu'en 1936. Président de la coopérative de consommation de Strasbourg, toujours le multicap, si vous voulez, conseiller municipal de Strasbourg avant 18, après 18, adjoint au maire, secrétaire fédéral adjoint de la SFIO jusqu'en 1955, jusqu'à cette mort, l'un des fondateurs de Force ouvrière dans le Bas-Rhin. C'est une longue histoire. Georges Weil, né en 82 à Strasbourg, origine bourgeoise, juive, francophone, Encore Michel, avec la Société Démocratie, fait un an d'études à Paris, à la Sorbonne, adhère au groupe des étudiants collectivistes et fréquente l'équipe du mouvement social de la Carvelle. Docteur en droit, en 1904, il travaille à la Chambre de commerce, puis devient propagandiste du socialisme dans les communes francophones de la Vallée de la Bruche, écrit dans la presse socialiste allemande, et correspondant de l'humanité qui est dirigée alors par Jean Jaurès à Berlin, qu'il rejoint d'ailleurs tous les mois à Paris, et puis député de Metz au Reichstag en 1912, où il a fait campagne en français, le soir du 31 juillet 14, étant au Café du Croissant, en face de Jaurès, quand celui-ci est assassiné. Le 5 août, il s'engage dans l'armée française, et après la guerre, il ne sera plus beaucoup en Alsace, mais sera quand même de 1924 à 1928 député du Bas-Rhin et de nouveau député du Bas-Rhin de 32 à 36. Salomon Grumbach, lui aussi d'origine juive, moins aisé, et puis secondaire à Colmar, double culture, entre l'SPD en 1902, devient journaliste, correspondant du Vorwärts, du journal de la social-démocratie allemande à Paris, écrit aussi dans l'humanité, passe la guerre en Suisse. Après la guerre, il sera plus parisien que Bourguignois, mais il sera quand même député de Toulouse de 1928 à 1932. Je pourrais encore longtemps parler d'Édouard Richard, qui deviendra maire de Colmar de 35 à 40, de 45 à 47, Louis Cass, ouvrier du textile, devenu gérant de la copée de Sainte-Marie-aux-Mines, maire de Sainte-Marie-aux-Mines de 35 à 40, puis de nouveau en 45, et Jean Ravenel, qui sera maire de Mulhouse après et député. Après vous dit. Après un succès relatif en 2004 et au municipal de 2005, l'influence de ces leaders sociodémocrates ou socialistes est battue en brèche par la montée de l'autonomisme de 1926. En 1929, les socialistes perdent durablement la mairie de Strasbourg, puisqu'ils ne la retrouveront qu'en 1989. Pas de remontée sensible en 1936, à la différence de ce qui se passe dans le reste de la France, malgré la vigueur du mouvement gréviste en Alsace. La génération des années 20, les Alsaciens du milieu populaire, qui arrivent à la ligne militante après 1918, constituèrent ce qu'on appelle une génération sacrifiée. Leur milieu familial était dialectophone. Lorsque la réalité primaire s'était déroulée exclusivement en allemand, la plupart d'entre eux avaient été mobilisés dans l'armée allemande pendant la Grande Guerre. Ceux qui savaient un peu de français n'en ont pas de pratique courante. Quand les organisations politiques et syndicales alsaciennes furent intégrées en 1919 dans le mouvement ouvrier français, à de rares exceptions près, ils ne pourront y jouer qu'un rôle marginal. Ceci explique l'importance prise à la SFIO par un bel fortin de famille alsacienne, Marcel Edmond Nechelen, qui exerça aussi une grande influence politique sur les élèves maîtres de l'école normale d'instituteurs protestants de la ville de la Forêt-Noire, que l'on retrouve en assez grand nombre dans les générations suivantes, au Parti socialiste, au syndicat national des instituteurs, à la Ligue de l'enseignement ou à la Ligue des droits de l'homme. Ce handicap n'empêcha pas beaucoup d'entre eux de s'engager dans la résistance aux nazis. Je ne citerai que deux exemples. Valentin Kainz, membre du syndicat CGT du textile de Mulhouse, militant socialiste, délégué du personnel chez Frey depuis 1936, passé chez Weimar, c'est-à-dire la SACM germanisée, en 1940. Condamné en mars 1943 à 6 ans de travaux forcés pour action illégale favorisant les ennemis et autres trahisons. Et puis je voudrais citer un ouvrier, dont on sait peu de choses et je pense qu'il faudrait creuser. Albert Kraut, militant de la section SFIO de Cronenbourg et de la FGT, c'est-à-dire la Fédération Sportive d'Hygiène du Travail, rédacteur sportif au Populaire de Paris, au journal de la SFIO, auteur en 1939 d'une brochure en allemand sur la propagande hitlérienne, interné à Schirmeck en avril 1941, déporté à Dachau, où il fut fusillé le 9 novembre 1942. C'est tout ce qu'on sait sur lui, pour le moment. La génération suivante, des années 30 aux années 60. Les enfants nés en 1913 et dans les années suivantes ont effectué toute leur scolarité primaire en français. Un nouveau handicap linguistique pèsera grandement sur les générations nées entre 27 et 38. Non seulement ils furent soumis, comme toute la population restée ou revenue en Alsace, à l'interdiction d'usage de langue française, mais encore, ils durent effectuer toute ou partie de leur scolarité primaire dans une école germanisée et nazifiée. Ceci explique en partie ou en grande partie que la faiblesse du recrutement du Parti Socialiste après la libération. La question linguistique pèse évidemment bien moins sur les jeunes issus pour la plupart des classes moyennes et de la bourgeoisie formées dans l'enseignement secondaire et surtout sur ceux qui accédèrent à l'enseignement supérieur à Strasbourg et à Clermont-Ferrand, lieu de repli de l'université de Strasbourg pendant la guerre. Le non-renouvellement de l'offre électorale contribuera à l'effondrement électoral de la SFIO qui perdit son dernier siège de député en 1956. Un seul exemple, Alphonse Kinsler, né en 23, fils d'Émile Kinsler, médecin homéopathe à Mulhouse, conseiller municipal de Mulhouse, et adjoint au maire après la guerre. Évadé d'Alsace en 40, Alphonse Kinsler reprit ses études de médecine à Clermont, fut résistant à combat, condamné par le tribunal d'État vichysois de Lyon à 5 ans de travaux forcés, livré aux Allemands en 44, déporté à Dachau puis à Stutthof près de Danzig, membre après la guerre, membre de la SFIO, adjoint au maire, mais suivant comme son maire Émile Müller, aussi la réunion de la gauche, il quittera la gauche pour la droite. La tradition génération des années 60, ceux qui arrivèrent à la vie militante à la fin des années 50 et dans les années 60, ont effectué pour la plupart toute leur scolarité dans le système scolaire français. De plus, depuis la libération, une grande partie des familles sont persuadés non seulement que, comme c'était affiché dans les trams de Strasbourg en 45, c'est juste par les Français, mais surtout que l'usage courant de la langue nationale est nécessaire pour l'insertion dans la vie professionnelle et la promotion sociale. Le particularisme régional fut alors de moins en moins un obstacle pour accéder à des responsabilités nationales. D'autre part, pour la première fois, une partie des catholiques pratiquants accepta de voter et de militer à gauche. Je ne citerai qu'un exemple, celui de Fredo Krugnoff, né en 27 à Mulhouse, élevé dans la cité ouvrière, dans une famille de tradition socialiste, cégétiste et libre penseur, mais qui choisit très jeune de pratiquer le catholicisme. Échappé de justesse à l'incorporation de force, il fut successivement permanent de la JOC, d'abord en Alsace, puis à Paris, puis militant à la CFTC, puis à la CFTB, dont il devient en 64 vice-président de l'Union départementale, milité également aux APF, l'Association populaire des familles, dans une coopérative d'HLM, aux Amis de témoignages chrétiens, dans une coopérative d'achat. Sur le plan politique, il fut encarté à la jeunesse république, à la jeune République, puis à l'UGS, puis au PSU. Il devient un grand personnage en 60, secrétaire général de la fédération CFTC du textile, puis de la fédération CFTT Agritex, habillement cuir textile. Permanent de la Confédération depuis 1966, c'est lui qui publie un premier rapport sur l'autogestion, c'est lui qui dirige la grève Agroceta, Royaceta, Absorption et Albion en 1967, c'est lui qui parle au nom de plusieurs fédérations CFTT à la manifestation du Stade Charles-Guy le 27 mai 68. C'est lui qui déclare en 1970 la lutte des classes et le socialisme autogestionnaire au congrès de la CFTT, devient secrétaire national CFTT chargé d'action revendicative aux côtés de mon maire, mais en 73, atteint par le cancer, doit se retirer et meurt en 74. On pourrait citer quantité d'autres exemples, notamment Jean Caspar, évidemment, Jean Lebert, Robert Mousset, etc. Le nouveau Métron, d'après 68, donnera bien plus de place à la gauche alsacienne, dans la mesure où l'exception alsacienne tend à s'effacer et où le PS y devient une force politique majeure, sans être majoritaire, sauf dans l'agglomération strasbourgeoise, avec même des reculs significatifs pour la gauche, comme la perte du Mulhouse. Du point de vue de l'engagement militant, on constatera comme partout ailleurs, le recul et peut-être la disparition du militantisme ouvrier. En revanche, la montée du recrutement des militants et des élus dans les classes moyennes, chez les cadres, chez les enseignants, dans les professions libérales, etc. J'étais un peu long, mais c'est un peu...